Jusqu'à 19h.
Actualité régionale.
Événements locaux.
À qui le tour ?
Avec Rémi Toroella.
Bonjour, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver après ce week-end à rallonge. Vous avez été nombreux à suivre le feu d'artifice hier soir à Montauban et à Castelsarrasin. Nombreux également au bal du 14 juillet, au bal aux accents de Mainvielle qui clôturait le festival de la Voix de Moissac, festival qui a encore une fois joué de malchance météorologique, tout comme la soirée Mix in Jazz de samedi à Montauban. Le tremplin de Mosaïque s'est déroulé à l'abri de la salle des fêtes et le gagnant, Nodal, a joué à Puy-Cornet dimanche soir à la fête d'Antan où se produisaient les majorettes de Caussade sous un ciel qui a su rester clément. On continue la fête ce soir avec le Jazz Off de Montauban, place Prax Paris, où se produisent le Big Band de Montauban et Salsa Illégale. On passe un bel été sous le soleil de ce 15 juillet. Pas de vacances sans un bon bouquin, alors restez donc attentifs aux sélections des libraires.
À qui le tour ? 05 63 930 020. Dites-le à la radio.
Les Voix de l'Alma, l'émission d'actualité littéraire de Montauban avec les libraires montalbanais. Peu de libraires autour de cette table aujourd'hui, mais on va dire que c'est les plus vaillants qui sont là.
Restons modestes, ce ne sont que les meilleurs.
Bonjour Maurice Beau de la librairie Beau Livre, Place Nationale.
Bonjour à tous.
Bonjour Hugues Dedi, du comptoir de Sildavi. Voilà, on va faire un petit coucou alors radiophonique aux libraires qui sont de l'autre côté du poste peut-être et qui nous écoutent. On va penser à Jacques Griffaut qui participe régulièrement à cette émission et puis également à Daniel Deloche et à Philippe Bernadou. Voilà, on leur envoie un petit coucou et puis on les retrouvera sur cette antenne à la rentrée prochaine puisqu'il s'agit de la dernière émission de l'année. Après, on part en vacances.
Hein. Voilà. Absolument, voilà. Ou pas. Mais on se retrouve l'année prochaine.
Alors, on commence tout de suite. Catherine Dufour, c'est votre auteur.
Oui, absolument. Je sors un petit peu de mes sentiers battus pour vous présenter un auteur de roman, Catherine Dufour, romancière née en 1966. Elle a d'abord commencé à écrire des poèmes très tôt, à l'âge de 7 ans. Et puis, à 5 ans, quand elle a appris que quelques poètes finissent trafiquant d'armes dans les pays chauds, eh bien, elle jette ses poèmes et commence à écrire des nouvelles. À 20 ans, et puis quelques prix littéraires plus tard, elle découvre Terry Pratchett, qui est un véritable déclic. Elle balance alors plusieurs kilos de nouvelles à la poubelle pour recommencer à zéro. Non, surtout n'allez pas croire que Catherine Dufour détruit systématiquement son travail pour remplir les conteneurs de papier à recycler. Ce qu'il faut retenir de ses 30 premières années, c'est qu'elle apprend son métier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en écrivant qu'elle devient écrivain. De cet apprentissage, elle dit « Avant d'écrire quelque chose de lisible, il faut avoir écrit de toutes les façons illisibles possibles. L'obscur, l'obscon, le pédant, le grotesque, le lyrique, le pseudo-profond. J'ai fait toutes les erreurs qu'il y avait à faire. Résultat, aujourd'hui, j'ai au moins du métier. » Et en effet, son premier roman édité est déjà merveilleusement ouvragé dans la limpidité, et même si on sent l'influence britannique de Pratchett, Douglas Adams ou des Monty Python, son écriture est magistralement originale et décalée. Souvent, lorsqu'on présente Catherine Dufour, on insiste sur son humour désopilant. C'est vrai qu'elle est très drôle. Moi, je trouve qu'on ne dit pas assez que c'est un écrivain remarquable, que ses univers sont riches, profond et très poétique. Au fond, je trouve que ces textes sont très graves et généralement tourmentés par le chaos de l'humanité. Et si son humour est à la fois une forme d'intelligence, d'élégance, une sorte d'exutoire en fin de compte. Alors, pour découvrir Catherine Dufour, je vous conseille plusieurs volumes. D'abord son grand cycle qui s'appelle « Quand les dieux buvaient », qui est un cycle de fantaisie composé de 4 ouvrages qu'on peut lire d'ailleurs dans n'importe quel sens. Alors, dans ce cycle, on va trouver « Blanche-Neige et les lance-missiles »,« L'ivresse des providers », »,« Merlin, l'ange chanteur » et « L'immortalité, moins 6 minutes ». Une fantaisie complètement renouvelée, moderne, très originale. Vous avez également Les délires d'Orphée dans la collection Van Helsing et puis également Le goût de l'immortalité qui a reçu le grand prix de l'imaginaire et le prix de la science-fiction française qui vient d'être édité dans une collection de poche et puis également dans une très belle collection chez Mnemos avec une magnifique couverture de Casa. Voilà, Catherine Dufour à lire cet été
Vous commencerez par nous donner l'eau à la bouche tout à l'heure, puisque vous nous en lirez quelques extraits, Hugues Dodis.
Absolument.
Pour l'heure, eh bien, c'est les coups de cœur avec images et visages du Tarn-et-Garonne. Vous êtes toujours très local, départemental, hein, Maurice Beau.
Oui, bien sûr. Mais parce que je pense que c'est une. D'abord, il faut saluer cet ouvrage qui est un tome 5. En deux volumes. Images et visages de Tarn-et-Garonne, c'est un travail colossal qu'a entrepris la compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne. Et là, voici maintenant 4 ans, 5 ans à peu près, et nous arrivons maintenant au tome 5 qui traite le pays montalbanais au temps moderne. Alors, ce tome 5 est donc en deux volumes, puisque ce n'est pas une présentation chronologique, mais plus thématique. Dedans, moi je voulais saluer mon ancien professeur, Jean-Claude Faux, professeur d'histoire, qui assure la coordination et la direction et directeur de ce cinquième volume. Mais on va trouver des plumes d'historiens locaux qui sont très bien dirigés, quoi, si vous voulez, dans cet ouvrage. Et je voulais saluer aussi la mémoire de Marcel Maurière, qui était un être parfaitement généreux et un très grand pédagogue et historien local qui vient de nous quitter voici à peine quelques mois. Voilà, donc ce que je peux recommander au niveau de ce... C'est un ouvrage en fait qu'on peut tout à fait picorer. Un ouvrage qui n'est pas du tout fastidieux. On a le plaisir de retrouver la plume et le tempérament de certains, hein, puisque chaque article est composé par un rédacteur différent. Et c'est quelque chose de très agréable, de très fluide, avec, par contre, pour les chercheurs, toutes les références qui sont parfaitement annotées, remarquées, et donc une bibliographie assez exhaustive. C'est vraiment un ouvrage de référence. Donc, les deux volumes du tome 5, Images et visages de Tarn-et-Garonne, qui est consacré au pays montalbanais, au temps moderne.
Red Garden, c'est le titre d'un manga que vous nous présentez aujourd'hui, Gaudi.
Absolument, un manga idéal pour tous les adolescents qui aiment le manga. Alors, ça se passe à New York, on a affaire à quatre jeunes filles, Kate, Rose, Claire et Rachel, qui fréquentent le même lycée et qui ont en commun leur amitié avec Liz. Et puis, le matin où se démarre cette histoire, en se réveillant, elles n'ont aucun souvenir de la nuit passée, hormis un grand manoir, une piscine étrange et des chiens noirs aux yeux rouges. Plus tard, elles apprennent que le corps sans vie de Liz a été retrouvé dans la forêt. Alors on se pose la question, s'agit-il vraiment d'un suicide comme tout semble l'indiquer? Chaque jeune fille est guidée par des papillons énigmatiques dans un jardin où se trouve une étrange femme, Lula, qui leur révèle qu'elles ont été assassinées la nuit précédente. Et pour ressusciter, elles doivent combattre des êtres mi-hommes, mi-bêtes. C'est ainsi que les héroïnes se plongent dans un monde violent et surnaturel plein de mystères. Ce premier tome de Red Garden est un petit bijou, et même si on peut se sentir un petit peu perdu au début, un peu comme les personnages de l'histoire d'ailleurs, on est happé par l'univers oppressant et mystérieux de ce manga. Le suspense est très subtilement distillé et l'ambiance est sombre. On avance à tâtons en pressentant que quelque chose de terrible s'est passé ou va se passer. Ou peut-être bien les deux. Alors ça s'appelle Red Garden, ce sera une série en 4 volumes. L'auteur c'est Kirihito Ayumura et c'est aux éditions 12 bis.
La libération de Montauban et du Tarn-et-Garonne, Maurice Beau.
Et voici un ouvrage de Jacques Latu, un ouvrage qui a été édité voici 4 ans, c'était à l'occasion du 60e anniversaire de la libération de Montauban. Donc la libération de Montauban et de Tarn-et-Garonne. Alors ce qu'il y a de remarquable dans cet ouvrage, à l'époque Jacques Latu était donc conservateur du musée de la résistance et de la déportation de Montauban, sous l'égide duquel il a édité cet ouvrage. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces deux journées où s'est écrit l'histoire avec un grand H pour notre département, il se prête à une analyse et il nous amène à découvrir une analyse de ce qui était l'occupation allemande à Montauban depuis le 11 novembre 1942. Deuxième point, il y a toute une explication et il nous guide dans la stratégie de la résistance à l'été 1944. Ensuite, il nous donne les grandes phases du repli de l'armée allemande. Et il ne faut pas oublier que la terrible division Das Reich, qui s'est illustrée ensuite en remontant en Normandie, était cantonnée à Montauban, est partie de Montauban et a semé le cortège funèbre, qu'on pourrait dire, d'atrocités dans notre département, à Oradour, etc. Tout ça, c'est parti quand même est parti de Montauban. Et quelque chose de très important aussi, l'ouvrage de Jacques Lattu précise le rôle du comité départemental de la libération à Montauban, où certaines pierres ont été posées pour un avenir qui a été le nôtre et qui l'est encore. Voilà, donc cet ouvrage se trouve toujours en librairie, La libération de Montauban et du Tarn-et-Garonne, Jacques Lattu.
Pauline et les loups-garous, c'est une BD, c'est pas un manga.
C'est une BD, oui, tout à fait. Pourtant, ce mois-ci, je trouve que la production est un petit peu morose, mais tout de même, je retiens Pauline et les loups-garous. Alors, tout commence en musique avec AC/DC et un conducteur qui s'appelle Angus. C'est la nuit, ils sont jeunes, ils sont deux, ils sont en cavale sur la route de l'Ouest et rêvent d'un monde meilleur et libre de l'autre côté de l'océan. Ils auraient pu être des personnages de films, version plus ou moins moderne et éclatante des Bonnie and Clyde d'hier, mais la réalité s'entête à être banalement ordinaire et ne tient pas ses promesses. Les grandes étendues sauvages américaines laissent la place à la tristesse d'une Vendée en basse saison. Pas de belle province, juste la province où l'on s'ennuie. Et puis il y a les loups-garous du titre, entre parenthèses, comme cachés, comme s'il y avait Pauline et que forcément les loups-garous devraient rôder non loin. Animaux et inquiétants, ils sont là, ils chassent, et Pauline, en proie désignée, se dérobe, fascinée et effrayée à la fois. D'une certaine manière, la référence au destin tragique du premier chanteur du groupe australien, Angus, excusez-moi, il est mort étouffé dans son vomi, résume aussi la trajectoire de ces deux adolescents en quête d'avenir, coincés entre la réalité éphémère de la route, du bitume, et la trivialité d'une réalité peu reluisante. Pourtant, le dessin de Stéphane Houry entretient le doute en évoquant à plusieurs moments l'univers graphique de Charles Burns et de son Black Hole. Mais on évite ici la parodie ou la redite, on en garde uniquement la puissance sensuelle et l'évocation d'une certaine nostalgie, parce que c'est ce qui ressort également de cette BD, de la tendresse pour l'époque révolue des road movies, du bon rock'n'roll, des Hells Angels, autant de symboles aujourd'hui dépassés, porteurs d'un glamour simple, une sorte de glamour prolétaire qui a du mal à résister à l'arrivée des types trop proprets du marketing. Ça s'appelle Pauline et les loups-garous, c'est écrit par Apollo et Stéphane Houry et c'est disponible aux éditions Futuropolis.
Merci Hugues Dedy, vous écoutez CFM, c'est Les Voix de l'Alma, l'émission mensuelle des libraires montalbanais. Avec chaque mois une lecture qui nous est proposée aujourd'hui par vous, Hugues Dedy.
Absolument, je vais vous lire un extrait de L'immortalité moins 6 minutes, écrit par Catherine Dufour. Auparavant, une petite question. Savez-vous ce que donne le croisement entre un ogre et un nain? La réponse se trouve sous la plume de Catherine Dufour. Les métis agro-nains étaient ratés, mais ratés à un point frisant l'ostentation. Sur l'échelle des aptitudes du mammifère moyen, ils avaient zéro dans toutes les matières. Seul le poulet possédait une peau plus tendre, mais du moins le poulet bénéficiait-il d'un plumage qui lui donnait un certain ressort face au soleil et au froid. Alors que les agro-nains, avec leur épiderme nu, attrapaient des engelures à la moindre bise, des brûlures à la première éclaircie et des ampoules au plus léger effort. Leurs dents minuscules, rigoureusement ineptes à l'attaque et à la défense, poussaient en désordre, tombaient en désordre et pourrissaient avec méthode. Leurs ongles, que personne n'osait appeler griffes, cassaient comme un rien. Avec ça, ils jouissaient de l'ouïe d'un bulot, de l'odorat d'un œuf et de la musculature d'une méduse. Un chien, qui leur arrivait au genou, entendait 100 fois mieux, sentait 1000 fois mieux et pouvait les déchiqueter comme un chausson. Encore, tout ça n'était rien à côté de la désespérante lenteur de leurs gestes. À part les limaces et les chats en mal de câlin, tout le monde était plus rapide qu'eux. Et bien sûr, ils ne voyaient rien la nuit. Ils s'avéraient incapables de distinguer au goût un champignon comestible d'une amanite turpide. Sur l'échelle de la progression intellectuelle, ils n'étaient pas véloces non plus. Il leur fallait un an pour parvenir à mettre un pied devant l'autre sans s'effondrer, deux pour réussir à articuler un mot, et en général, ce n'était pas un mot très intéressant.
Par bonheur, ils mouraient tôt, d'infections incroyablement variées. Pour ça, ils étaient bons.
L'immortalité moins 6 minutes de Catherine Dufour. Alors, le mois dernier, vous nous faisiez part dans cette émission, messieurs, de votre inquiétude quant à des amendements sur la loi Lang qui visaient notamment à permettre de solder les livres.
Absolument.
Oui. Alors oui, en effet, c'était le mois dernier, nous l'évoquions à cette antenne. Plusieurs députés de la majorité ont déposé un amendement lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie. Amendement visant à revoir les conditions des soldes de livres.
Il faut rappeler que ces propositions ont été faites sans aucune concertation avec les professionnels du livre. Et ces amendements tentaient de remettre en cause la loi Lang sur le prix unique du livre et menaçaient l'équilibre du marché ainsi que la diversité de la création et de l'édition française. D'où l'inquiétude.
Voilà. Et face aux vives protestations de la Société des gens de lettres, du Syndicat national de l'édition et du Syndicat de la librairie française, ces amendements n'ont pas été retenus. Mais peut-on craindre une nouvelle attaque de la Lang?
Alors, les acteurs du livre sont inquiets, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui sont colportées sur la loi par des multinationales du commerce culturel. Le lobbying qu'elles exercent auprès des parlementaires est à l'origine de ces amendements. Il vise à déréguler le marché du livre afin d'imposer un modèle commercial basé sur une volonté d'hégémonie et une stratégie purement financière. Donc concrètement, on peut craindre que la loi soit de nouveau attaquée.
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, pour d'abord bien maîtriser la loi sur le livre, il y a un site internet qui vient de s'ouvrir qui s'appelle pourlelivre.net, pour le livre sans espace, qui a été créé donc par le syndicat de la librairie française avec la collaboration du syndicat national de l'édition et de la société des gens de lettres. Ce manifeste permet de découvrir d'abord ce qu'est la loi Lang et puis son intérêt pour maintenir toute la chaîne du livre. Et également pour les lecteurs, eh bien, on peut signer le manifeste.
Mais qui la loi Lang protège-t-elle?
Alors, la loi Lang, c'est une loi, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez long, mais globalement, c'est une loi qui protège tous les acteurs du livre, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire l'auteur, qui a souvent besoin, qui perçoit des droits sur les ventes directes de livres, l'éditeur, rappelons quand même que beaucoup d'éditeurs sont indépendants, sont tout petits et ont besoin d'avoir une place pour mettre en librairie leur production, le libraire qui fait son travail en présentant toutes les productions, ceux des grosses firmes mais aussi ceux des petits libraires indépendants, yeah. Et le lecteur qui a la faculté de trouver sur le territoire national des livres au même prix.
Et soulignons-le aussi, la richesse et la diversité d'un réseau de libraires.
Pour toute information, allez voir le manifeste en faveur du livre, donc pourlelivre.net.
CFM, les voix de l'Alma. Vous pouvez retrouver cette émission et puis tous les articles qui sont cités, tous les bouquins qui y sont présentés sur librairiemontauban.fr et sans doute aussi sur cfm.radio.free.fr. Je dis sans doute aussi parce qu'un petit accident de base est arrivé sur le site et qui fait qu'il y a quelques articles qui ont disparu.
Un petit coup de soleil.
Voilà, un petit coup de soleil, rassurez-vous, on mettra ça à jour dès que possible. Voici venu le temps du bouquin Foutrac.
Absolument, les auditeurs de CFM ont de la chance parce que je disais la semaine dernière qu'il était rare d'avoir un bouquin Foutrac. Et là, deux fois de suite, un bouquin Foutrac. Pour celui-ci, n'hésitons pas un seul instant à parler d'événements historiques. Ceux qui savent ce que c'est que pas un seul numéro 1 en conviendront aisément. Mais pour tous ceux qui ne savent pas, voici quelques explications. C'est en 1987 que Duo et Kilofer ont autoproduit le premier Pas un seul, magazine composite fait de bandes dessinées expérimentales, de textes abscons et de mises en page néo-dada. Ce Pas un seul inaugural fut une des premières tentatives d'édition de l'embryonnaire maison d'édition qui aujourd'hui s'appelle l'Association, d'hybrider la bande dessinée avec des préoccupations d'ordre avant-gardiste artistes exportés de l'histoire de l'art et de la littérature du XXe siècle. En janvier 90, un second Pas un seul numéro 1 revenait pour générer un lien avec les idées dada, surréalistes ou oulipienne. Le Pas un seul de Duo et Kilofer a donc fort compté dans le développement de la tendance avant-gardiste de la maison d'édition, l'association. On comprend mieux maintenant pourquoi le nouveau Pas un seul numéro 1 de Duo et Kilofer en 2008 est un événement historique. Troisième occurrence, troisième numéro 1, ce Pas un seul, grand format et agrafé, ne propose plus de textes typographiés ni même de bandes dessinées à proprement parler, mais de grandes compositions qui articulent texte et dessin avec un subtil art du contrepoint, de l'incongruité, un étrange mélange d'avant-gardisme graphique, de slogans foutraques et de potacherie ésotérique. Ça s'appelle Pas un seul numéro 1 et c'est édité à l'association.
Alors, je vous laisse la parole, Hugues Dedit. Dites-moi quel est l'ouvrage que je dois mettre dans ma valise pour partir à la plage.
Alors, ce mois-ci, effectivement, pour partir en vacances, je vous conseille Toto-chan. Au début des années 40, Toto-chan, 6 ans, exaspère son institutrice à cause de sa curiosité hors du commun et de sa langue bien pendue, ce qui fait qu'elle est jetée de la classe primaire. Elle se retrouve donc exclue du système scolaire, peu de temps après y être entrée. Alors, ses parents décident de l'inscrire dans une école un peu à part qui s'appelle l'école Tomoe. Il s'agit d'un petit établissement où de vieux wagons de train font office de salle de classe. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de Tetsuko Kuro Yanagi, je l'ai bien dit, qui est aujourd'hui une vedette très connue de la télévision et qui nous fait part de son histoire dans l'école Tomoe, qui propose qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui proposait une pédagogie totalement alternative. Alors, on y découvre dans ce livre comment, au fur et à mesure, les enfants apprennent à être autonomes, à s'imprégner de préceptes tels que le respect de soi-même, des autres, le goût pour l'étude, l'acceptation de l'échec, la musique ou encore l'amitié. Voilà, en résumé, il s'agit vraiment d'un véritable hymne à la tolérance et au savoir. Ça s'appelle Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. C'est écrit par Tetsuo Kuro Yanagi est traduit du japonais par Olivier Magnani et ça vient d'être réédité dans une collection de poches chez Pocket.
On ne l'arrête plus à Hugues Dedit aujourd'hui. Merci Hugues. L'actualité de l'ALMA, c'est cette exposition consacrée à cet artiste local qui s'appelle Rémi.
Le thème de l'exposition, c'est « Où on vous dit toute la vérité sur la création du Tarn-et-Garonne ». Et alors, si certains ont eu la garde républicaine, d'autres un président de la République, nous carrément, nous allons faire cette exposition avec la présence de Napoléon. Et nous faisons cette exposition sous les arcades de la Place Nationale, avec la complicité de la famille et de la maison Napoléon Bardet, des couteliers, qui sont couteliers sous les couverts depuis l'Empire. Alors, nous vous invitons à venir découvrir autour de 4 fresques historiques de Rémy, la légende de notre département, et ce voyage graphique vous dévoilera les secrets de la création, des armoiries et du patrimoine de notre territoire. Une vision actuelle et singulière de notre vie de Tarn-et-Garonne, en quelque sorte. Voilà.
Voilà, une expo qui fait suite à celle qui se poursuit tout au long de l'été, où il y aura d'ailleurs un revernissage.
Oui, il y a un revernissage pour cette exposition, donc qui s'appelle « Ça bouchonne à Paris et ça débouchonne chez nous », donc au comptoir de Sylvie tout l'été, devant les couverts. C'est un véritable plaisir de promouvoir Rémi, donc un jeune graphiste de Montauban, extrêmement talentueux. Comme je dis, je pense que ce garçon est tombé dans les cuves de Bacchus quand il était petit et qu'il en a gardé, je dirais, toute la sympathie du vin et de tous ces produits merveilleux que nous ont légués les anciens dieux.
Voilà. Et avec lui, nous cultivons l'art du décalage, comme vous avez pu le, comme vous pourrez vous en assurer.
L'art du décalage avec Rémi.
Comme vous pourrez vous en assurer au cours de ces deux expositions qui seront donc en simultané, Place Nationale. Je rappelle l'expo avec la présence de Napoléon, n'est-ce pas, du 22 au 31 juillet.
Eh bien, on fait peut-être le tour rapidement de tous les ouvrages que vous nous avez présentés aujourd'hui pour se dire au revoir et bonnes vacances.
Voilà, bien, écoutez, j'ai eu le plaisir de vous présenter le cinquième tome, les deux volumes du cinquième tome d'Images et visages de Tarn-et-Garonne, qui est consacré au pays montalbanais au temps moderne par la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne.
Alors moi je vous ai présenté un manga qui s'appelle Red Garden aux éditions 12 bis. Je vous ai parlé également d'une BD qui s'appelle Pauline et les loups-garous aux éditions Futuropolis, Toto-chan, La petite fille à la fenêtre aux éditions Pocket, et puis alors régalez-vous avec les livres de Catherine Dufour, L'immortalité moins 6 minutes, enfin bref, tout le cycle Quand les dieux buvaient, Les délires d'Orphée dans la collection Van Helsing et Le magnifique goût de l'immortalité en poche ou chez Mnemos.
Et moi, je vous ai parlé d'un second ouvrage, tout simplement, La libération de Montauban et du Tarn-et-Garonne, par Jacques Latu.
Voilà, toutes les références de ces ouvrages sont sur librairiemontauban.fr et peut-être que cette émission sera en podcast sur cfm.radio.free.fr si d'ici là j'ai retrouvé ma base de données. Je vous souhaite une bonne vacance.
Bonnes vacances à tous.
Et bel été.
Et bonne lecture.